France Musique.
Bonjour à tous, nous sommes le 14 juillet et comme chaque année en ce jour de fête nationale, nous commémorons la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération de 1790. Alors bon réveil, bienvenue sur France Musique et vive la France. Extrait de la Marseillaise par le chœur de l'armée française et la musique de la garde républicaine, bien sûr.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Allez, bonjour à tous. De nouveau, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h sur France Musique en ce jour de fête nationale. Alors en attendant le traditionnel défilé qui commencera aux alentours de 10h, on va retrouver nos rendez-vous musicaux habituels sur France Musique avec d'abord un reportage qui nous conduira à Versailles. C'est un peu ironique en ce 14 juillet, mais c'est le cas dans les coulisses d'un spectacle baroque. À 7h50, dans le jeu de l'été, l'album Reine du Ciel de l'ensemble Diabolus et Musica qui a gagné. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals, direction le festival de la Vézère. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et puis à 8h30, un pianiste invité, un pianiste pas comme les autres, Riopi, pour célébrer la sortie de son album Bliss chez Warner. Mais comme nous sommes le 14 juillet, eh bien je me suis dit qu'on pouvait bien être un peu chauvin aujourd'hui. Donc d'ici 9h, que de la musique française. Voilà, Cocorico, et ça commence tout de suite. Bon réveil et bienvenue. Bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
Les danses de la deuxième symphonie d'Albéric Magnard, et c'était l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la baguette de Michel Plasson.
C'est l'été sur France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h38, c'est l'heure de l'actu musicale. Et d'abord, merci à tous. Merci à tous du fond du cœur, chers auditeurs, car grâce à vous, France Musique élargit son audience et passe pour la première fois le million d'auditeurs sur une saison, accompagné d'une part d'audience record de 1,7%. Ce sont les résultats médiamétriques tombés hier qui nous le disent, avec notamment des records d'audience pour Allegretto de Denis Akershova, Musicopolis d'Anne-Charles Trémont et le Van Beethoven d'Aurélie Moreau. Alors continuez à nous suivre, on vous aime et on va continuer à vous le faire savoir. Suite aux annonces du président de la République lundi, complétées hier par celle d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, les festivals vont devoir faire face à un nouveau casse-tête, rapporte Diapason. En effet, le pass sanitaire devient obligatoire pour tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes, ce qui inquiète les organisateurs de festivals qui craignent de longues files d'attente engendrées par la vérification des passes, sans compter la crainte également que ces mesures dissuadent d'éventuels curieux et infléchissent la courbe de la fréquentation. Félicitations au jeune corniste Nicolas Ramez, 27 ans, membre de l'Orchestre de Chambre de Paris. Il a été nommé cor solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et conseiller pédagogique du Conservatoire. Le Philharmonique de Strasbourg qui accueillera aussi à la rentrée la jeune Salomé Mokhtad, 28 ans, au poste de harpe solo. À lire dans le Figaro, Daniel Auteuil se met à la chanson et monte sur scène à La Rochelle, ou plutôt devrait-on dire se remettent à la chanson puisqu'il chantait déjà dans les années 80 avant d'être happé par le cinéma. Son album s'appelle « Si vous m'aviez connu » concocté avec Gaëtan Roussel. Il sortira le 17 septembre à 71 ans. Daniel Auteuil présente son album en avant-première au Francofolie. Et enfin, direction Versailles où les menus plaisirs d'été du Centre de musique baroque de Versailles proposent au public une immersion dans les coulisses d'un spectacle baroque à travers des ateliers de chant, de danse, de décor, de costumes et de théâtre. Les participants découvrent le quotidien des artistes et artisans à la cour de Louis XV. Reportage en immersion de Susanna Kubik.
Il nous faut de l'amour, à vous. Il nous faut de l'amour.
On se croirait à s'y méprendre en plein dans le grand siècle. Ce samedi, au Centre de musique baroque de Versailles, l'illusion est parfaite. Les Lunésiens Arnaud Marzorati et David Ghilardi, tous deux soi vêtus, un tricorne sur la tête et les souliers à boucles aux pieds, animent un atelier de chant dans le bon goût du 18e devant une petite dizaine de participants.
Don Corbeau tenant un fromage et sur un arbre.
Ici, pas d'échauffement vocal ni de vocalise, on apprend surtout ce que c'est que d'être chanteur au siècle des Lumières, David Ghilardi.
On apprend comment gestuer un texte, comment le déclamer, comment se positionner sur scène, la posture, la respiration. On parcourt avec une fable de La Fontaine tous ces différents aspects de la déclamation et du chant baroque.
Une découverte pour Catherine, qui s'attendait plutôt à un cours de chant classique.
C'était amusant et j'avais plus l'impression de faire du théâtre et de jouer un personnage.
Jouer un personnage, c'est justement l'idée du Centre de musique baroque de Versailles pour les menus plaisirs d'été. Les participants se glissent dans la peau des artistes et artisans du XVIIIe siècle. Une vraie immersion où musiciens, comédiens et danseurs incarnent les personnages historiques, comme Monsieur Papillon de Ferté, dernier intendant des menus plaisirs, ou Monsieur Boquet, costumier du roi. On y apprend à danser la gavotte, à entraîner sa mémoire et sa prononciation. On découvre ce que c'est qu'un pouf au sentiment, un carrousel ou une grotesque. Arnaud Marzorati, concepteur du projet.
Tout est fait pour qu'on s'y croit, puisque c'était le quotidien de tous ces gens de Versailles. Et à la fois, c'est pas non plus un exercice, je dirais, historique pour des spécialistes. On l'a conçu dans une simplicité pour vraiment toucher tous les publics. C'est pour montrer que cet univers baroque, il est disponible à tout le monde.
Pour l'occasion, les studios du Centre de musique baroque de Versailles sont emménagés. On a sorti les décors de l'Opéra Royal et les costumes des réserves. Une façon aussi de faire revivre l'époque où l'hôtel des menus plaisirs était en quelque sorte la boîte de production des divertissements du roi.
C'est une magnifique machine à remonter le temps et qui nous montre à quel point ce divertissement, c'était des choses nécessaires. Et il y avait quelque chose aussi d'éminemment politique. Voilà, on s'amuse, mais on révèle aussi que de tout temps, la culture a été un mot important dans la bouche des puissants.
À la sortie des ateliers et malgré la pluie, les participants se retrouvent pour un spectacle qui réunit sur scène toutes les disciplines proposées. Les spectateurs sont conquis.
Même des gens qui ne sont pas forcément passionnés par le baroque ni rien, tout le monde peut passer une très bonne journée ici, au moins pour découvrir et juste pour s'amuser, quoi.
Si vous souhaitez participer au menu plaisir d'été, il n'est pas trop tard. Deux dernières sessions sont programmées aujourd'hui à 9h30 et à 14h30. C'est au Centre de musique baroque de Versailles.
Un ballet de village en trio de Joseph Bodin de Boismortier. C'était le ballet numéro 1 de l'opus 52 de Boismortier, interprété par le concert spirituel d'Hervé Niquet, pour refermer ce reportage consacré au menu plaisir d'été du Centre de musique baroque de Versailles. Un sujet de Susanna Kubik qui tombe à pic, hein, comme je le disais tout à l'heure, en ce mercredi 14 juillet, fête nationale. Il est 7h50, c'est l'heure de jouer. Et oui, et qu'est-ce qu'on gagne ce matin? Le disque Reine du Ciel de l'ensemble Diabolus in Musica d'Antoine Gerber, un disque paru chez Bayard Musique, un disque qui contient en fait tout simplement la Missa Avericina Celorum de Guillaume Dufay, l'un des grands représentants du génie français du 15e siècle. Guillaume Dufay, qui est comme tous les compositeurs de l'époque, parti exercer en Italie, à la chapelle papale, avant de servir les ducs de Savoie, puis de venir se fixer dans sa ville natale, à Cambrai. Cette messe, chef-d'œuvre de polyphonie, sans doute été composé pour lui-même afin d'être célébré tout le 5 août, date probable de son anniversaire. Antoine Gerber en fait une messe votive mariale avec 5 parties en grégorien pur, c'est-à-dire en plein chant, qui viennent s'intercaler entre les parties polyphoniques de l'ordinaire de la messe. Personnellement, j'adore totalement cette musique qui est totalement planante. Elle vous met en lévitation totale. C'est un peu comme un psychotrope, vous allez voir. Mais pour gagner, avant de vous endormir, il faut d'abord répondre correctement à la question du jour, la question qui va suivre. Vous y répondez en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous, mais attention, sur la page de l'émission, je vous le rappelle, parce qu'on reçoit toujours, tous les matins, des mails qui nous arrivent par la plateforme de France Musique. Autant vous dire que ces mails nous arrivent 2 heures plus tard. Donc si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut vraiment aller sur la page Musique Matin, sur le site francemusique.fr, vous cliquez sur Contactez-nous, vous nous indiquez bien sûr vos coordonnées complètes. Alors voici la question. En musique, la polyphonie est l'art d'entrelacer, de tresser plusieurs voix musicales en entre elles. Comment appelle-t-on cet art si difficile? Le cantus firmus, le contrepoint ou le plein chant? En musique, la polyphonie est l'art d'entrelacer, de tresser plusieurs voix musicales entre elles. Comment appelle-t-on cet art si difficile? Le cantus firmus, le contrepoint ou le plein chant? C'est une question de solfège ce matin sur France Musique. Vous avez jusqu'à 8h50 pour participer. À 8h50, vous aurez la réponse et le nom des gagnants. Allez, bonne chance.
Oh,
Un extrait de ce nouveau disque de l'ensemble Diabolus in Musica d'Antoine Gerber. C'était le Kyrie de la Missa Ave Regina Celorum de Guillaume Dufaille. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes en lévitation totale? Est-ce que vous êtes en apesanteur? Moi, je suis en apesanteur quand j'écoute cette musique. Le disque est à gagner. Vous avez jusqu'à 8h50. Je vous rappelle très très rapidement la question du jour en polyphonie. Comment appelle-t-on l'art d'entrelacer, de tresser plusieurs voix musicales entre elles? Est-ce que c'est du cantus firmus, du contrepoint ou du plein chant? Vous pouvez continuer à participer encore jusqu'à 8h50, je vous le rappelle.
Toute cette semaine dans Été Classique, on démarre l'après-midi par une programmation tous azimuts autour de la future saison des concerts de Radio France et on la poursuit par un voyage musical dans les riches heures du Festival de Saintes qui fête cette année son 50e anniversaire. Retrouvez sur France Musique et en podcast sur l'appli Radio France, Philippe Hervègue, le Collégium Vocal de Gand, l'Orchestre des Champs-Élysées, Jordi Savall, Tone Kopman et les artistes qui ont fait des belles heures du festival dans des pages sublimes du répertoire baroque et classique.
Une voix rocailleuse, reconnaissable entre toutes. Mais connaissez-vous le vrai Louis Armstrong? Mystérieux, peut-être un peu mythomane. Pour vous, j'ai mené l'enquête et je vous invite à passer un été avec Armstrong chaque week-end à 18h sur France Musique et sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h en ce mercredi 14 juillet. À suivre, ne manquez pas l'été des frères Jacques à 8h25. Un été un peu antimilitariste. Petit clin d'œil à cette fête nationale et au défilé du 14 juillet. Et puis à 8h30, un pianiste qui va totalement vous apaiser. Un pianiste hors des sentiers battus. Il s'appelle Riopi. Mais tout de suite, elle est à elle seule l'armée et les renseignements généraux de l'actualité. C'est Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour.
Bonjour Clément. Bonjour à tous.
Il est 8h.
Olivier Véran l'a annoncé hier soir, pas de passe sanitaire dès le 21 juillet pour les 12-17 ans dans les lieux où il sera exigé pour les adultes. Ils en sont exemptés jusqu'au 30 août, Tarach Legal.
Finalement, le bon sens prôné par Gabriel Attal en sortant du Conseil des ministres hier s'est mué en absence totale de passe sanitaire pour les plus jeunes. Pendant tout l'été, exit ce sésame, ils n'en ont plus besoin. Jusqu'à présent, le gouvernement avait parlé de souplesse par la voix de Bruno Le Maire, mais il s'est rendu à l'évidence. Il faut dire qu'ils sont très peu nombreux à être déjà vaccinés. C'est moins de 18 ans, 2,23% seulement, si on en croit Covid Tracker, qui reprend les chiffres de Santé publique France. Et puis 15% seulement des 12-17 ans ont eu une seule dose. Alors on imagine le casse-tête pour presque 9 familles sur 10, et pour les professionnels, notamment pour les patrons des salles de cinéma qui s'étaient déjà exprimés en disant qu'ils ne se voyaient pas contrôler des groupes d'adolescents et exclure juste les 2-3 copains qui n'auraient pas eu le bon QR code. Cela dit, si le pass sanitaire devient obligatoire à la rentrée, il va falloir quand même s'organiser pour faire vacciner les 12-17 ans pendant cet été, peut-être sur les lieux de vacances. Mais au moins, les parents ont un mois et demi devant eux et au pire, en septembre, des campagnes de vaccination sont promises dans les collèges et dans les lycées.
Hier, le record de vaccination journalière en France contre le Covid a été battu avec 792 339 injections à 18h. Une vaccination qui sera reconnue comme complète et donc le pass sanitaire valable une semaine après l'injection de la deuxième dose et non plus deux. Après une année sans Covid oblige, le défilé militaire fait son retour aujourd'hui sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. Les spectateurs devront être munis du pass sanitaire et porter un masque. La jauge dans les tribunes sera en outre fixée à 10 000 personnes contre 25 000 en temps normal. Près de 7 000 contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures, un niveau plus vu depuis le début juin. 86 morts et 206 blessés 5 ans après. Nice commémore aujourd'hui l'attentat djihadiste de la promenade des Anglais. Le 14 juillet 2016, un Tunisien demeurant à Nice avait foncé dans la foule venue assister au traditionnel feu d'artifice au volant d'un camion, fauchant des dizaines de personnes pendant 2 minutes avant d'être abattu par la police. Le groupe État islamique avait revendiqué cette attaque, mais l'enquête n'a confirmé aucune connexion avec son auteur. En pleine offensive des talibans qui affirment contrôler 85% du pays, la France demande à tous ses ressortissants de quitter l'Afghanistan. Poussés par cette offensive, de nombreux Afghans fuient. Beaucoup veulent partir à l'étranger. Ces derniers jours, une longue file d'attente se forme d'ailleurs dès l'aurore devant le service des passeports à Kaboul. Sonia Ghazali est allée à la rencontre de ces candidats à l'exil. Reportage.
Dans la file d'attente, un professeur d'anglais attend depuis plusieurs heures. Il veut récupérer son passeport et fuir en Iran.
J'ai toujours essayé d'aider les jeunes à garder espoir, mais j'ai perdu espoir. L'autre jour, je pleurais face à mes élèves. Je leur ai dit, je dois reconnaître que j'ai échoué à vous faire garder l'espoir. Ils pleuraient avec moi.
L'avancée des talibans fait craindre le pire à une partie de la population qui préfère prendre la fuite. Comme ce père de famille qui patiente avec son épouse et leur fille qui n'a pas encore un mois. C'est surtout pour elle qu'il veut s'exiler.
Elle n'aura pas le droit de travailler, d'étudier, ni même le droit de vivre. Elle ne pourra pas décider de son avenir. Elle ne pourra peut-être pas rester vivante à cause des terroristes, des insurgés barbares. Donc je vois un avenir très sombre.
Derrière lui, une universitaire et son fils âgé de 10 mois dans les bras. Elle a fui le Badakhshan, dans le nord-est, capturé par les talibans.
Mon université est occupée par les talibans qui s'en servent comme d'une base militaire.
Avec son époux, elle espère pouvoir se réfugier en Turquie.
Sonia Ghazali à Kaboul. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année selon les statistiques publiées par l'Organisation internationale pour les migrations. Au moins 1146 personnes sont mortes au cours du premier semestre. Fin des voitures à essence à partir de 2035, taxe kérosène inédite dans l'aérien, réforme du marché du carbone au risque d'un impact sur le prix des carburants. La Commission européenne présente aujourd'hui 12 propositions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Le temps aujourd'hui pluvieux avec des averses orageuses, surtout sur un grand quart nord-est où 5 départements sont en vigilance inondation, variable avec quelques ondées de la Normandie au sud-ouest, plus lumineux de la Bretagne au Cotentin, ensoleillé autour de la Méditerranée. Les températures, 12 à 15 degrés ce matin, 16 à 20 près de la Grande Bleue, 17 à 22 cet après-midi, 25 à 31 sur le pourtour méditerranéen et en Corse. France Musique, 8h05 et c'est à vous mon cher Clément Rochefort.
Merci Marie-Hélène Duvigneau, prochain journal sur France Musique tout à l'heure à midi. Et quant à nous, eh bien à 8h10, on va partir pour le festival de la Vézère avec sa directrice artistique Isabelle Dussaillant, un festival qui fête ses 40 ans. À 8h25, l'été des frères Jacques, spécial 14 juillet. Et puis, à 8h30, notre invité du jour, un pianiste totalement délassant. C'est Riopi qui viendra nous présenter son dernier album, Bliss. Et tout de suite, petit passage du côté de Bordeaux. Bordeaux, où le compositeur Christian Lobat organise du 15 au 22 juillet son festival Les Nouvelles Saisons, avec 5 concerts dans la cour Mably et la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Parmi les musiciens invités, le jeune percussionniste Aurélien Gignoux, victoire de la musique 2021, dans la catégorie Révélation soliste instrumentale, la mezzo-soprano Delphine Edan, l'orchestre des Nouvelles Saisons, l'ensemble baroque spécialisé dans le baroque irlandais et écossais The Curious Bards, ou encore le saxophoniste Richard Ducrot. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site du festival www.lesnouvellessaisons.com. Bridge, c'est un extrait du Concerto New York ou New York Concerto de Christian Lobat, un triple concerto pour violoncelle, saxophone et piano avec Henri de Marquette au violoncelle, Richard Ducrot au saxophone alto et Jonas Vito au piano, accompagné par l'orchestre symphonique de Mulhouse sous la direction de Daniel Kleiner. 8h07, alors en ce jour de 14 juillet, petite pensée pour ce ballet collectif complètement fantasque sur un livret de Jean Cocteau et dont la musique avait été signée par les compositeurs du groupe des Six et dont l'ouverture de la main de Georges Auric n'est pas sans rappeler les fanfares militaires, et elle s'intitule justement « Ouverture le 14 juillet ». Thank you. Ouverture le 14 juillet, le début du ballet des Mariés de la Tour Eiffel. La musique est signée Georges Auric, en tout cas pour cette partie-là du ballet. C'était l'Orchestre National de l'ORTF à l'époque qu'on entendait sous la direction de Darius Milhaud lui-même.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Et à 8h10, en route pour notre Tour de France des festivals. Et ce matin, nous descendons dans le sud-ouest de la France au Festival de la Vézère qui fête ses 40 ans cette année, 40e édition en tout cas. Un festival qui a commencé le 6 juillet et qui se poursuit jusqu'au 14 août. Pour en parler, nous sommes avec sa directrice artistique, Isabelle Dussaillant. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Dussaillant, est-ce qu'on est en Corrèze ou en Dordogne? Parce que la Vézère, je crois que c'est une rivière qui traverse ces deux départements. Hein.
On est en Corrèze.
Voilà, en plein cœur de la Corrèze.
Oui, la Vézère coule en Corrèze principalement, elle est, et ensuite elle a un petit bout en Dordogne.
Le festival se passe donc dans le château du Saillant, c'est un domaine de famille, hein, c'est bien ça?
Oui, mais il ne se passe pas que dans le château du Saillant, il se passe dans 7 lieux différents cette année, et dans toute la Corrèze, si vous voulez.
Oui.
Et en fait, c'est pour faire connaître le patrimoine corrézien, qui est très riche et très beau. Donc nous allons dans des abbatiales, des églises, des différents lieux, des centres culturels aussi, dans toute ma région.
Des lieux de patrimoine dans lesquels Chagall est passé, j'ai découvert ça en lisant le programme du festival.
Eh bien, il se trouve que c'est mon mari qui a fait faire des vitraux de notre chapelle, de l'église du village, par Marc Chagall. Donc c'est une des rares chapelles au monde à être entièrement décorée par des vitraux de Chagall.
Il faut avouer que c'est quand même pas mal. Direction donc la Corrèze cet été jusqu'au 14 août. Alors c'est une édition anniversaire, donc c'est une édition un peu exceptionnelle avec des grandes stars cette année, Isabelle Dussaillant.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas exceptionnel, on a toujours des grandes stars. Mais cette année, c'est vrai que notre très grande star, c'est Arkady Volodos. Il y a aussi Virginie Vérès parce que c'est une chanteuse qui est originaire de notre région en plus. C'est ouais. Célèbre, mais c'est en plus de la région. Et quant à Arkady Volodos, il est venu à 17 ans. Donc c'est formidable qu'il puisse revenir maintenant qu'il est une grande célébrité.
Aussi quelques artistes plus jeunes, de la jeune génération, mais déjà très prometteurs. Quelques noms à nous donner?
Oui, bien sûr. Alors j'ai déjà eu un premier concert avec Saya Khashoggi et François Dumont. Et puis j'ai Paul Ley qui va être au piano, et j'ai surtout Edgar Moreau, qui est très jeune, oui, effectivement, et qui va conclure enfin de l'avant-dernier concert de mon festival, cette année, le 12 août, à la Collégiale de Turenne, qui est un très bel endroit du patrimoine aussi.
Et puis Isabelle Dussaillant, bien sûr, on peut retrouver toute la programmation sur le site internet du festival, hein, festival-vézère.com. Un dernier mot pour dire qu'il y a quelques nouveautés cette année, avec notamment des randonnées musicales.
Oui, il y a une randonnée musicale qui descend dans un site très beau qui s'appelle le Château de Combormes. C'est une randonnée qui va durer une bonne partie de l'après-midi. Et elle sera accompagnée par deux musiciens, Florent Eau, clarinette, et Théo Houle, accordéon. Donc il se prête très bien, si vous voulez, à de la musique populaire pendant une randonnée, facile et accessible à tous. C'est dans le but, bien entendu, d'amener un public nouveau vers la musique classique, un public de jeunes, un public de gens non initiés, qui pourraient, de cette manière, se rendre compte que la musique classique est merveilleuse et qu'elle est pour tous.
Eh ben, c'est un beau message, Isabelle Dussaillant, un beau message avec lequel on est tout à fait d'accord sur France Musique, bien entendu. Je renvoie de nouveau à votre site internet www.festival-vézère.com pour toutes ces aventures musicales. Vous l'avez dit, la grande figure des 40 ans du festival, qui est toujours jeune, c'est Arkady Volodos. Et bon, on va l'entendre dans cet extrait d'un prélude de Franz Liszt, d'après un prélude de Jean-Sébastien Bach. Merci Isabelle Dussaillant, vous souhaite un très bon festival.
Merci beaucoup, au revoir.
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, un prélude d'après Jean-Sébastien Bach de Franz Liszt, interprété ici au piano par Arkady Volodos. 8h20, il est temps de faire le point sur les concerts du jour sur France Musique. Alors à 16h, on continue de célébrer avec Benjamin François les 50 ans du Festival de Saintes, avec plusieurs extraits de concerts d'archives de 1981, de 2007, avec notamment des grands motets français d'Henri Dumont, par Philippe Hervaeg et la Chapelle Royale, des cantates de Bach et de Buxtehude, toujours dirigées par Philippe Hervaeg. À 20h ce soir et à 21h30, c'est Jean-Baptiste Urbain qui vous accompagne au Festival de Grenade en Espagne. Et puis à 23h, côté jazz, ne manquez pas ce groupe autrichien Shake Stew, un concert donné il y a quelques mois et qui vous sera présenté par Yvan Amar. Mais moi je vous propose d'entendre un extrait du concert d'archives de Saintes, un extrait de ce concert du 12 juillet 1981, un extrait du grand motet Super Flumina Babylonis d'Henri Dumont, interprété par la Chapelle Royale, dirigé par Philippe Hervaeg. Un extrait du grand motet Super Flumina Babylonis de Henri Dumont avec les voix de Guillemette Laurens, d'Henri Ledroit à l'époque, de Ward Crook, de Peter Coy et de l'ensemble La Chapelle Royale sous la baguette de Philippe Hervaeg. Beau concert d'archives de 1980 à retrouver dans son intégralité cet après-midi à 16h au micro de Benjamin François. Il est 8h25.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure de l'été des frères Jacques.
Alors qu'est-ce que c'est?
Ah! Est-ce que c'est beau?
souvenir sur papier glacé électrise.
Nous sommes donc le 14 juillet. Dans quelques heures va commencer le traditionnel défilé du 14 juillet avec tous ces militaires en uniforme qui depuis une semaine m'empêchent tous les matins de traverser la place de la Concorde pour venir vous réveiller à la radio en répétant inlassablement leur déplacement afin que le jour J et le défilé soient impeccables et sans tache. L'occasion rêvée pour moi de vous faire entendre une célèbre chanson aux allures antimilitaristes des frères Jacques, mais qui est aussi une chanson potache, pochade, fantaisie, un peu surréaliste sur les bords. C'est Général à Vendre, le texte est de la main de l'inimitable Francis Blanche et raconte l'histoire d'un général à Vendre sur le champ de foire. Général à Vendre, les frères Jacques.
De bon matin me suis levé, c'était dimanche. À la carriole j'ai attelé la jument blanche. Pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté, paraît qu'il y avait des généraux à vendre. Mais le soleil écrasait en la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on n'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au bout du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres, quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté,
mais le chien s'est mis à aboyer.
Alors on a laissé l'autre moitié.
Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparait l'escabeau ou débouchait le lavabo.
Mais il ne savait même pas jouer du piano.
Certains soirs d'été,
le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles.
Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel.
Et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant.
L'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine.
Et puis la guerre de Cent Ans quand il n'était que lieutenant.
Les croisades des Pépins, le bref, quand il n'était que sergent-chef.
Et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal.
Les Thermopyles, Léonidas quand il n'était que deuxième classe.
Et Ramsès de la première guerre quand sa mère était cantinière.
Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte.
Ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait deux jumeaux à la bonne. Et puis voilà que par un beau matin de décembre, il est entré sans même me frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai reconduit en
carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajons. Et sans émotion inutile, sans pleurer, sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros.
À la maison, la vie a pris sans aventure. Y a plus personne pour nous chiper des confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau.
Pour la patrie, j'ai payé la facture.
Je ne suis plus jamais retourné au marché. Mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été,
on voit briller 5 étoiles. Et ça nous fait un peu mal. On a acheté jamais un général.
Le général à vendre, une chanson de Francis Blanche et de Pierre Philippe interprétée par nos amis les frères Jacques. Il est 8h31.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, Riopi, pianiste qui vient pour présenter son nouvel album Bliss, qui vient de sortir chez Warner Classic. Alors j'ai eu envie de vous inviter parce que parfois on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas qu'un tsunami se profile à l'horizon. Et puis vous, Riopi, vous êtes un peu ce tsunami. En quelques années, vous avez atteint 200 millions de streams. Vous êtes dans le top 5 du classement Billboard Classic entre Max Richter et Lang Lang. Vous signez la musique de grands succès hollywoodiens. Vous signez la musique pour des publicités de grandes marques internationales. Vous publiez votre 3e album chez Warner, intitulé Bliss. Et malgré ça, vous êtes passé totalement inaperçu dans mes radars. Bonjour Riopi.
Bonjour.
Mais alors comment vous expliquez cette discrétion totalement paradoxale avec ce succès planétaire qui semble être le vôtre ?
Alors là, je sais pas vraiment quoi dire à ça. Ça commence bien. Je dis merci déjà à l'introduction, c'est une très très jolie introduction.
Bah écoutez, c'est le cas. Non mais en tout cas, on va parler évidemment de l'album qui vient de sortir, un album qui vous présente sous un air très serein puisqu'il s'appelle Bliss. Ouais. Bliss, c'est quoi ? C'est la bénédiction, c'est le bonheur.
C'est un peu ça, c'est un peu cet état d'être en fait un peu à la perfection, mais pas la perfection vraiment matérielle, la perfection dans sa tête où on est juste bien. C'est vraiment pour moi un peu l'amour parfait. C'est cet état.
C'est avec cet album que vous atteignez cet état de perfection ? Parce qu'il y en a eu deux autres avant, hein, je crois.
Il y en a eu deux autres, oui. Ouais.
Mais c'était déjà des albums où vous étiez plutôt apaisé ?
Oui, complètement. Bah, le premier, quoi, c'était un album éponyme, donc Riopi, il était très, très raw. Hein, désolé, je fais un peu moche d'anglais devant Adam, parler anglais-français, mais c'est les 15 ans d'Angleterre qui font ça. En fait, c'était vraiment très, très, très raw. Quoi. Comment on dit raw ?
Rack ?
Non, raw, R-A-W, raw, très... écorché vif, hein, vraiment écorché vif. Voilà, ça, c'était très écorché vif. Le deuxième, donc Tree of Light, il était beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus apaisé. Et Bliss, pour moi, celui-là, c'est marrant, il a un peu le côté du premier, du deuxième, avec quelque chose de complètement nouveau. Et aussi, bah, dans ma vie, je pense, d'adulte aujourd'hui, quoi.
Il est totalement planant, lévitation, ce disque. Bah, on va déjà en écouter tout de suite un premier extrait.
Thank you.
Un premier extrait de votre dernier album, Riopi. L'album s'appelle Bliss. La pièce s'appelle La Vernatelle. C'est quoi La Vernatelle?
Alors la Vernatelle, c'est une maison. C'est la maison de mon ami Pierre, un homme très généreux que j'aime beaucoup. C'est un très bon ami qui est dans le sud de la France, au nord de vraiment dans le sud de la France. Hein, on va pas dire plus. Et en fait, j'avais composé la Vernatelle là-bas. Dans une vieille maison avec un vieux gaveau quart de queue qui a à peu près 90 ans, qui avait été acheté pour sa maman à l'époque, et lui il a quand même déjà 72 ans, en cadeau de mariage, me semble-t-il. Ouais. Ah oui. Et donc il y avait vraiment une histoire, et c'était plein d'émotions, et dans un de ces moments d'été avec les grillons, tu vois, il fait super chaud à l'extérieur, vraiment ce côté vraiment de paix en fait, et donc j'avais commencé la Vernatelle, et du coup bah j'ai enregistré tout l'album là-bas d'ailleurs.
Sur le gaveau d'époque.
Alors j'ai gardé le gaveau, mais non, on a fait venir un Fazioli 3,8 m de Paris qui était absolument incroyable.
Ben oui, quand même. Spontanément, quand on écoute votre musique, on aurait envie de rapprocher évidemment votre langage de celui des répétitifs américains, un petit peu comme Philip Glass, entre autres. Comment est-ce que vous ce rapprochement, ça vous parle ou au contraire, vous vous sentez assez loin de cette tradition-là.
Franchement, je me sens ni proche ni loin. Je pense que Philip Glass a complètement son univers. Je pense que pour moi, c'est comme si on me disait un peu toutes les forêts se ressemblent, parce que c'est vrai que c'est dans des forêts, il y a plein de vers différents. Mais plus on va dans la forêt, plus tu vas voir quoi. Bah en fait, il y a des milliers de vers. Et voilà, ou comme nous en tant qu'être humain, où effectivement on a tous deux pieds, deux jambes, enfin pour la plupart. Et puis, mais on est tous uniques avec une ADN unique. Donc je pense que ma musique, elle a ce côté-là, comme Philip Glass, comme tout le monde, mais en même temps.
On a toujours besoin de faire des cases, hein.
Mais c'est clair, ça. C'est clair. Mais c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que je trouve que, je sais pas.
En tout cas, je suis ravi de vous accueillir sur France Musique. Alors, on va vous présenter parce que finalement, je pense que les auditeurs de France Musique ne vous connaissent pas forcément. Malgré ce succès planétaire qui est le vôtre, vous avez 38 ans. Votre vrai nom, c'est Jean-Philippe Riopi. Je me suis demandé s'il y avait un lien avec Olivier Pi.
Je ne crois pas. En même temps, je connais pas du tout même un peu la vie de famille, donc j'ai toujours 37 ans, désolé.
Mais... 37 ans, pardon, je vous ai vieilli. Ah bah merde alors. Bah mince alors. Vous êtes né en France, jusque-là, bon, rien de particulier. Alors vous avez eu, ça vous le racontez dans plusieurs interviews, une enfance un peu atypique, un parcours totalement atypique, vous nous racontez un petit peu.
Bah je vais reprendre le mot que vous avez dit, hein. J'ai une vie de merde.
Pardon, mais c'est vraiment
désolé,
sorti tout seul.
Faut pas le dire. Non. Mais je pense que les Français sont plus choqués aujourd'hui, hein, mais j'ai eu une vie un petit peu difficile effectivement, mais je pense que c'est ça aussi qui a créé mon besoin de la musique. C'était plus une nécessité du coup qu'une passion. C'était vraiment un moment où je pouvais aller me mettre au piano. J'ai eu la chance d'avoir un piano, au moins c'est le truc que j'avais. J'avais 2 ans quoi, et tester des sons, et puis je me suis débrouillé à. Mais ça nourrissait directement mon esprit, hein, mon âme, et c'est ça qui m'a aidé à vivre.
C'est une façon de vous évader.
Ah bah 200%, mais je crois que pour la majorité des gens, on s'en rend même plus compte aujourd'hui, mais la musique, ça peut nous faire, ça peut nous aider, ça peut nous faire du mal, ça fait partie de notre vie, non ? Enfin, tous les bruits, les sons...
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de partir en Angleterre, comme ça ?
Bah, toute ma vie, justement, comme en fait, j'avais absolument rien à perdre, parce que j'avais rien. Donc, pour moi, je voulais faire ma carrière, et en France, c'était un petit peu difficile de... Tout de suite, je rentrais dans aucune case, et puis il y avait quand même un côté un petit peu, on va dire, un peu... il y avait un côté vraiment... un peu pseudo-intello ou je ne sais quoi, où en gros, bon, t'as pas fait le conservatoire, t'as pas fait ci, t'es pas pop, t'es pas classique, bon, tu dégages, quoi. Il y avait vraiment pas de place pour moi à l'époque, hein. Donc j'avais 20 ans, je suis parti. Et puis en Angleterre, là-dessus, quand je faisais du piano, on me disait pas, tu fais quoi dans la vie ? On me disait, tu sais quoi, c'est super et c'est beau ce que tu fais et continue. Et il y avait plus ce côté un peu anglo-saxon, on voulait t'aider, on disait, tu fais de la musique, c'est très bien. Au lieu de te juger, de te dire, t'es encore plus une merde que tu penses que tu n'es déjà.
Thank you.
Joy, la joie, à 8h42 sur France Musique, un titre de Riopi, extrait de son dernier album Bliss. Alors on va reprendre un petit peu le fil de votre carrière. Vous arrivez donc à l'âge de 20 ans, 21 ans en Angleterre. Vous êtes repéré par Steinway & Sons, la firme de piano, et puis un certain Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Racontez-nous, ça commence, comment vous êtes tombé sur lui?
En fait, c'est un peu un coup de chance, hein, comme beaucoup de choses dans la vie. Hein, je l'oublierai jamais, c'est qu'il y a beaucoup de chance en fait. J'avais mon manager, donc j'avais un manager, c'était en 2011, qui vivait juste en face de l'éditrice en chef de Vanity Fair, qui était tombée donc amoureuse de ma musique, ce qui est super, et qui m'a demandé de jouer pour un événement, pour une grande marque, et puis l'égérie de la marque, c'était Gwyneth Paltrow. Et donc je suis invité en tant que guest, et puis bon, on parle jamais d'argent, mais à l'époque en plus je gagnais même pas un centime, mais on me dit on va te donner 1 000 euros pour 1 000 pounds pour jouer un morceau de musique. J'étais là, j'étais comme un fou, enfin pour l'argent je m'en foutais, parce que de toute façon, bon voilà, quand t'en as pas, de toute façon tu t'en fous un peu, mais c'était de jouer, j'étais là waouh, mais c'est ouf, c'est génial. Et donc je me retrouve invité, et je vais jouer à cet endroit là et puis il y a Chris Martin qui est dans la salle, quoi, et je suis là, merde, parce que là j'ai commencé vraiment à flipper, parce que j'avais pas vraiment confiance en moi, j'ai eu super peur, et je me mets à jouer le morceau, puis boum, je finis le mode de jouer, et là il y a gros silence, je me dis oh zut, j'ai foiré le truc, et en fait je me lève, et là les gens applaudissent et se lèvent et tout, donc j'avais un peu peur. J'ai joué un morceau très très dynamique, et là Chris il me dit de venir le voir, et je vais le voir, et en gros, il me fait un gros câlin, il me dit c'était magnifique et tout, c'était ouf. Et puis une semaine plus tard, mon manager a fait une blague, parce que Chris a dit j'aimerais bien l'aider, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et il a dit il pourrait faire avec un piano. Il dit je achète un piano. Et c'est comme ça que j'ai mon piano sur lequel j'ai enregistré Riopi. Mais à l'époque, j'avais pas une seule thune, donc du coup, j'étais un peu en galère. Donc le piano, j'ai pas pu le mettre dans un endroit, dans un appart pendant 2 ans. Tu vois.
Ah oui, donc il vous offre un piano sur lequel vous n'avez pas joué.
À l'époque, non. Et puis en plus, il me voit après, il m'avait invité à ses concerts. Il me dit alors le piano, c'est comment? J'étais c'est super, parce que je n'allais pas en plus le faire sentir coupable d'avoir acheté un piano dans lequel je ne pouvais pas jouer.
Il est bien, mais il est à la cave.
Voilà.
Et donc ensuite, bon, tout s'est enchaîné assez rapidement. Les films, les pubs aussi, et puis les albums. On est venu vous chercher ensuite très vite.
Franchement, alors c'est joli de dire ça. T'as l'impression que c'était vraiment une. Mais en fait non, c'était beaucoup beaucoup quand même de galères, et c'est, ouais. Ça se fait petit à petit. Les chances que j'ai eues, c'est que je pense de la musique qui est émotionnelle et qui est au final très cinématique. Et donc petit à petit j'ai pu faire de la musique pour les pubs, pour des bandes annonces, pour des et voilà quoi, en fait c'est comme ça que ça a marché.
En tout cas, c'est une musique dans laquelle il y a une détente profonde. Je ne sais pas si c'est ça le but, un des objectifs ou un des buts de votre musique, mais on se sent complètement apaisé quand on écoute votre musique.
Eh bien, ça me fait plaisir d'entendre ça, mais moi, en fait, ma musique m'a vraiment sauvé la vie, hein, la première fois. Hein. Donc, du coup, c'est sûr qu'avoir en plus... quand tu me le dis, oui, ça me touche, parce que c'est les messages que je reçois la plupart du temps que ça fait du bien.
Alors on est le matin, et pour un réveil en douceur, on écoute Sweet Awakening. Thank you. Sweet Awakening de et par Ryopi au piano. C'est extrait toujours de son dernier album Bliss qui vient de paraître chez Warner. On le disait, de la musique est extrêmement apaisante. Vous le disiez, vous, de la musique qui vous a sauvé la vie. Vous écrivez tout. Est-ce que toutes les pièces naissent de l'improvisation? Est-ce qu'il y a un moment comme ça dans la journée? Comment ça marche, votre processus créateur? Vous avez une inspiration, vous asseyez au piano, ça vient tout seul. Et puis ensuite, vous mémorisez la pièce ou parfois vous concevez la pièce avant de la jouer?
Franchement, les deux. Vraiment, ma première langue, c'est vraiment la musique. Quoi. Tout vient. Parfois, je me lève la nuit, puis je vais faire du piano parce que j'ai un truc qui vient. Et puis voilà, c'est vraiment, c'est ce qui me fait. C'est ce qui me fait vraiment vivre, quoi.
Et après, comme ça, vous collectionnez les pièces et c'est comme ça qu'on construit un album. Je sais que vous avez même écrit une pièce, parce que je vous disais tout à l'heure que je trouvais qu'il y avait un potentiel de relaxation dans votre musique. Et je découvre, en préparant l'interview, que vous avez écrit une pièce pour l'application de relaxation calme, une pièce qui s'appelle Med 66 ou 66. Vous avez même fait une version live sur YouTube où vous jouez pendant une vingtaine de minutes, un peu plus même, en invitant les internautes à une séance de méditation. Vous pratiquez vous-même la méditation?
Ouais, carrément. Bah depuis pas mal de temps et moi deux fois par jour, 20 minutes deux fois par jour. Ouais, tous les jours.
20 minutes deux fois par jour.
Ouais.
Mais c'est si vous aviez un conseil à me donner et à donner peut-être aux auditeurs de France Musique qui aimeraient méditer eux-mêmes. Je vous le dis parce que moi je n'y arrive pas à me concentrer. Moi je m'ennuie, ça m'ennuie la méditation.
Mais je
n'y arrive pas. Si je regarde un mur blanc, je m'ennuie. Si je ferme les yeux, je m'ennuie avec moi-même.
Mais déjà, si je te donne une méthode de respiration, tu vas pas t'ennuyer, parce que tu vas partir un peu, tu vas te sentir un peu dizzy et ça va te faire vachement de bien. Et je crois que c'est le gros problème de notre société, parce que tout le monde va super vite. Moi je fais de la méditation, c'est pas le côté spirituel, c'est pas le côté skippy, tu vois, dans les inconnus, que je trouve très drôle. Rien à voir, c'est vraiment le côté purement scientifique. Quand tu médites, tu peux changer tes ondes cérébrales et du coup, vraiment, physiquement, tu vas mieux et dans ta tête, tu vas mieux. C'est un truc de ouf. Donc, je dirais un conseil déjà, pas essayer de faire trop longtemps. T'as pas besoin de s'asseoir en tailleur avec la colonne droite et être là. Oh, ça, c'est complètement ridicule. C'est bête, mais par exemple, t'es dans le train, respire. Juste que tu te concentres sur ta respiration. 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, tu vois. Et après, t'as ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est 21 jours pour changer une habitude. Et ça, on a découvert que le cerveau, t'as vu où j'en suis?
C'est Brain Magazine.
Où en fait, il est plastique. Donc, on peut apprendre plein de choses nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai créé donc cette MED66. Mais je l'ai créé aussi avec ce qu'on appelle des ondes binaurales. Et les ondes binaurales, on va mettre 4 Hz d'un côté de l'oreille droite, 8 Hz de l'oreille gauche. La différence, elle fait 4 Hz. Et elle va, avec le corps calleux, donc le corpus calleux au milieu du cerveau, aider ton cerveau à être plus calme. C'est purement scientifique et c'est absolument extraordinaire. Et du coup, en faisant ça petit à petit, tu vois, tu vas aller de mieux en mieux et tu vas pouvoir te concentrer.
Et donc, évidemment, la musique peut aider, dans ces cas-là, à se concentrer sur soi-même, à respirer et se caler sur le rythme de la musique. Vous êtes un petit peu un guérisseur, un musicien guérisseur, d'une certaine manière, Ryopi.
Voilà. Après, on dirait là comme ça, je vois une espèce de druide avec une blouse blanche et les cheveux.
Ah non.
Mais c'est vrai que la musique, oui, ça fait du bien. Et puis moi, après cet album, je l'ai aussi, j'ai changé de fréquence. Je l'ai enregistré en 432 et je trouvais que il y avait une espèce de résonance un peu plus grande. Mais tu sais, la façon dont je l'ai fait, j'ai, par exemple, un truc bête, j'ai jeûné, tu vois, j'ai jeûné pendant 48 heures avant d'enregistrer l'album parce que je voulais vraiment être dans un état un peu différent.
J'ai jeûné complètement.
Rien
bu, rien mangé.
Non, et j'ai médité aussi, parce que tout de suite, pour être dans un autre état, parce que pour que la musique est cool, en fait, tu sais, quand on crée, on est ce qu'on appelle en onde theta. Et quand nous, on discute, on est en onde bêta.
Oui, surtout moi, très souvent, je suis en onde bêta, ça je peux vous le dire. Merci Ryopi d'être venu nous voir ce matin. Moi j'avais envie qu'on se quitte avec l'extrait d'un album précédent, Tree of Light, c'est Ukiyo, parce que je trouve que, puisqu'on a parlé de méditation, je trouve que c'est la musique peut-être la plus méditative de toutes celles que vous avez écrites. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi.
C'est une effectivement qui marche le plus pour la méditation.
Eh ben voilà, j'en étais sûr.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt Ryopi.
À bientôt, au revoir. Thank you.
On est zen ce matin sur France Musique avec Riopi. Là, c'était la pièce Ukiyo, un extrait de son album précédent, Tree of Light. Mais je vous rappelle bien sûr qu'il est venu nous présenter ce matin son dernier album en date, sorti lui aussi chez Warner, un album qui s'intitule Bliss. Et bien voilà, c'est la fin de Musique Matin pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir nos gagnants du jour. Alors la réponse, d'abord, cet art d'entrelacer des voix musicales entre elles, c'est le contrepoint. Bravo aux trois gagnants du jour. Arthur Sandoval de Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Bravo à Christian Vanacker à Lyon, dans le Rhône. Et puis à Jacqueline Coudert de Vernouillet. C'est dans l'Eure-et-Loire. Tous les trois, vous recevrez un exemplaire du disque de l'ensemble Diabolus in Musica, le contrepoint. Cette organisation rigoureuse de la superposition des différentes lignes mélodiques avec des règles très strictes d'une époque à l'autre, afin que l'entrelacement génère à chaque note des couleurs harmoniques bien précises. Il y a plein d'exemples de contrepoints comme le canon ou la fugue, par exemple, dont Jean-Sébastien Bach est l'un des plus puissants représentants. Restez à l'écoute de France Musique en ce 14 juillet. Ça va pétarader dans votre poste et ça continue tout de suite dès 9h avec Aude Gigère. Bonjour.
Bonjour Clément.
Pour l'été classique, je dis que ça va pétarader, mais peut-être pas d'ailleurs. C'est quoi le programme aujourd'hui de l'été
classique ? Le
programme
aujourd'hui, on s'échappe loin de cette grisaille pour le 14 juillet.
Ah bah nous aussi on s'échappe. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on va descendre à Montpellier dans quelques instants pour vous retrouver demain matin et vendredi en direct du Festival de Montpellier. On recevra demain Jean-Pierre Rousseau, le directeur du Festival de Radio France, Occitanie-Montpellier. Et puis on sera aussi avec Jules Dussap et Gabriel Laffey, deux des membres du Quatuor Hanson, un quatuor génialissime.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure au JGR et merci à toute l'équipe qui m'entoure tous les jours. Marion Guillemet, Florian Henault, Flora Sternadel et Taïsia Froidure à la préparation. Merci aussi à la console ce matin, à Fred Kiefer et Maïwenn Lejohan. Très bonne journée à tous, à demain, je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.